Salut les marques, salut les smarts, salut peuple le catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile essentielle. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Mais pas que, parce qu'il y a des fois, à catch-up, on fait aussi autre chose. Et aujourd'hui, on est heureux de vous présenter la 6e édition de You Talk Too Much. Et ouais, le show qui, dans vos oreilles ébahies, va se dérouler pour sa 6e édition. Édition exclusive de You Talk Too Much Catch-Up, émission où on ne se tait jamais. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Voilà, j'ai décidé de faire dans le lourd. J'ai décidé d'envoyer du très, très lourd à Catch-Up, puisque j'ai deux invités. Alors, ça va être assez particulier, puisque à travers ces deux invités, aujourd'hui, on va parler de catch tricolore. Eh ouais, les amis, on va parler de catch français, peuple de Catch-Up. Ça va nous changer un peu. You Talk Too Much, vous le savez. C'est l'émission à catch-up où on sort un peu des canons de la WWE, de la All Elite Wrestling et autres mignardises du catch mondial. On s'intéresse plutôt au catch un peu indie, on s'intéresse un peu au parcours de différents catcheurs, youtubeurs et tout personnage qui gravite un peu dans le milieu de l'ignoble sport. Et du coup, bah, pour cette 6e édition, c'est sympa parce qu'on va avoir un truc vraiment cool à vous présenter puisqu'on va vous présenter des amis de la Wrestling Pro Essonne, la WPE. Et je vais vous présenter tout de suite mes deux invités. Donc, nous avons à ma gauche, nous avons Axel, qui est autre que annonceur, commentateur et élève à la Wrestling Pro Essonne. Et nous avons surtout un grand catcheur, puisque faisant partie de l'équipe de la WPE, ça y est, je commence à vous lancer des WW, alors là, ça y est, ça commence à se lancer, c'est la Fédération Mondiale, la Fédération de la Pro Essonne. Et donc, du coup, on accueille un catcheur, et ça fait plaisir, on accueille El Payo. Alors, messieurs, je vais vous donner la parole l'un après l'autre. D'abord, un grand bonjour à toi, Axel, comment vas-tu ?
Bah, bonjour à toi, bonjour à tout catch-up. Bah, moi, ça va très très bien, je suis très content d'être avec toi pour cette émission aujourd'hui.
Alors, tu connaissais le podcast ?
Ouais, j'avais écouté notamment celui sur Story.
Ouais.
Et j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup le format en fait, le format radio, ça, et c'est quelque chose que je trouve qui manque un peu. En France, il n'y a pas assez de web radio catch, même s'il y en a déjà, mais il n'y en a pas, il n'y en a jamais assez. Et du coup, ben, voilà, je suis très content d'être là, je pense que ça va être très sympa.
Ok, eh ben, écoute, moi je suis ravi de t'accueillir. Donc je, voilà, pour le peuple et le catch-up, t'es donc un jeune, ça fait plaisir d'avoir un jeune avec un vieux tonton. T'es annonceur, commentateur et t'es élève à la WPE, t'es en formation en fait pour devenir un futur catcheur, t'as 21 ans à peu près, c'est ça hein ?
Ouais, c'est ça, j'ai 21 ans.
Ok, donc voilà, en pleine formation.
Voilà, bah ça fait, ça va faire, je crois, 2 ans maintenant, en septembre.
Ok.
Ça va faire 2 ans révolus. Et là, j'attaque la 3e.
Tu fais partie un peu de l'ensemble de l'organisation du show dont on va parler un peu après. Mais avant ça, je vais vous présenter donc le El Payo. Là, ça sonne bon le Mexico. Et si vous écoutez Tonton Chris régulièrement, vous savez que je suis un fan de Lucha Libre. Donc, ça fait plaisir de recevoir un homme masqué au studio de Catch Up. Salut El Payo, comment vas-tu ? Comment est-ce ça ?
Bonjour, bonjour à tous. Ça va et bien et toi ?
Ah, ça va très fort, écoute. Alors, même question qu'à Axel, que tu connaissais un peu catch-up avant de débarquer dans nos studios ?
Du tout, du tout. Moi, il faut savoir que tout ce qui est chaîne YouTube, tout ça, je connais rien du tout. Les podcasts, pareil, je suis pas trop, j'avoue que...
Finalement, t'évolues, j'ai envie de dire, dans le réel, puisque t'évolues sur le ring, t'évolues en bossant dans une promo régionale, voilà, c'est un... T'as finalement peut-être pas tant de temps que ça d'ailleurs pour regarder du catch tout simplement.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Un peu plus maintenant, mais c'est compliqué.
Je vous ai invité tous les deux à Catch Up parce que à You Talk Too Much, on aime bien parler un peu de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pour le coup, là, vous allez pour la seconde édition, vous allez organiser quelque chose qui sort de l'ordinaire sur le catch français indépendant, puisque l'année dernière vous aviez fait un show à Corbeil-Essonne, au Palais des Sports de Corbeil-Essonne, qui s'appelait Quality Over Quantity, et où vous aviez eu l'insigne honneur et vous aviez fait un sacré taf pour avoir des gens comme Matt Cross ou Brian Cage à l'affiche. Donc, c'était déjà une belle réussite en soi. Eh bah, bien, vous récidivez, vous faites le repeat, puisque cette année, Quality Over Quantity, aura donc lieu le 26 septembre 2020 au Palais des Sports de Corbeil à partir de 19h. Donc organisé par la Wrestling Pro Essonne. Alors, on va décliner ensemble la carte de 2020, mais d'abord, on va faire un petit flashback. On va parler quelques instants de 2019. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole pour nous faire un petit peu une review, un revival de ce qui s'est passé en 2019.
Bon, je pense que Axel est bien placé, hein, vu qu'il était sur place en tant que speaker.
Alors, Axel, vas-y.
Eh ben, la carte de 2019, elle était assez lourde, puisqu'on avait trois guests. On avait du coup Matt Cross.
Ouais.
On avait Brian Cage, qui était à l'époque champion Impact. Et on avait Eddie Ryan, qui est un catcheur anglais très très bon lui aussi.
Qui est passé par NXT.
Ouais.
Voilà. Et du coup, ça avait été assez lourd. On avait notamment mis Matt Cross en opener contre Napoléon, qui, d'après beaucoup de retours, est un des matchs préférés de la soirée. On avait mis aussi Mila Smith contre Anastasia, qui était le gros match féminin de la carte. Donc là, maintenant, on évolue aussi niveau catch féminin, parce que on fait du mix, mais à l'époque, on avait fait un match 100% féminin. Et on avait mis, du coup, on avait fait la grosse surprise. C'est pas tellement un spoiler, parce que c'est passé et c'est sur la chaîne de Story. Mais on avait fait gagner à Matt Cross l'opportunité de pouvoir devenir champion. Et il s'est révélé que dans le match de championnat, après celui-ci, Matt Cross est intervenu et est devenu notre champion à la WPE. Bon, qui malheureusement, pour des raisons de Covid, ne sera pas présent, mais il est toujours notre champion. Il se balade d'ailleurs toujours avec la ceinture. On avait vu des photos au Canada de lui prendre des photos avec la ceinture WPE à l'international.
D'accord.
Donc c'est assez prestige.
La ceinture voyage.
Exactement.
C'est ça.
Combien vous aviez de combats à la carte ?
De tête, il y en avait 6.
Puis en opener, on avait aussi un match d'élèves.
Ok.
Qui n'a pas été filmé. Mais qui, dans mon souvenir, était quand même plutôt pas mal.
Ok, main event, c'était du coup
Cage contre Mike DiVecchio, The Belgian War Machine.
Ouh !
C'était le match des poids lourds. Ça avait été très attendu et on était très contents de pouvoir accueillir ce match. Parce que c'était la première fois qu'on accueillait Mike DiVecchio chez nous et qu'on avait Brian Cage comme ça en France. Enfin, c'était vraiment un match qui déjà, sur le papier, promettait. Et qui a eu l'effet escompté, puisque il a reçu pas mal de bonnes critiques.
D'accord.
Du coup, ça a été un beau main event pour clore la soirée. On était très contents. Puis on a eu beaucoup de retours qui étaient vachement positifs sur ce match. Et puis sur la carte en général.
Ouais.
Du coup, ça nous a fait très plaisir et très confiant pour cette année.
Donc vous avez eu du monde au niveau de la salle. Vous aviez une belle carte. Et vos impressions, El Payo, tes impressions en tant que catcheur là face à un Brian Cage là, qu'est-ce que ça fait de rencontrer The Machine en vrai qui évolue à la All Elite Wrestling à l'heure actuelle?
Ah c'est impressionnant, il est énorme. Hein. Je veux pas dire que je me sentais petit à côté, mais quand même. Hein.
Ah pourtant je te connais, t'es un fort beau gabarit ma foi. Hein. Donc mais Cage c'est quand même quelque chose de phénoménal quoi.
Ah c'est sûr, c'est que physiquement c'est le catcheur américain. C'est tout ce qu'un catcheur devrait être normalement, quoi.
Alors du coup, plutôt une belle réussite d'ailleurs pour le show de 2019. Axel, tes impressions, toi, finalement, en tant qu'insider, là, c'est-à-dire l'organisation, c'est bien, tu vois, que les gens, ils sachent un peu comment ça se passe, l'organisation dans une petite fédé départementale, régionale, qu'on organise, on fait venir des gens, comme ça, on fait venir des Américains, on a des catcheurs locaux qui sont là et qui se produisent. Comment t'as ressenti ça, toi, en tant qu'insider ?
Alors là, c'était assez compliqué. L'organisation était assez compliquée parce que on n'est pas non plus en France, il n'y a pas de grosse fédération qui a vraiment énormément de moyens.
Ouais, grosse structure.
Même s'il y en a qui ont toujours plus que d'autres. Mais l'argent, ça devient toujours un petit peu un problème, surtout quand on a beaucoup de dépenses à faire. Et c'est vrai que l'organisation, avec les catcheurs français, il n'y a pas eu tellement de problèmes. Ça a été une bonne organisation comme il y avait eu sur les deux autres shows précédents. C'est plutôt avec tout ce qui est forcément avec tout ce qui est international, tout ce qui est Matt Cross, Brian Cage et les États-Unis, il y a de la logistique, il y a de l'hébergement, il y a tout ça, donc ça a été assez pas non plus chaotique, ça a quand même été géré, mais ça n'a pas été ultra simple. Ça n'a pas été très très simple.
Alors, combien, tout compris, combien ça vous a coûté d'organiser votre gala à Corbeil?
On dira pas forcément le prix exact.
Non, mais donne-moi une fourchette. Mais c'est bien.
On est entre 6 000 et 10 000 euros quasiment.
D'accord, ouais.
En plus des petits plus qui ne sont pas prévus.
Et oui, les à côté.
Comme par exemple changer d'hôtel au dernier moment. Enfin, sur Paris, c'est vrai que c'est pas donné, quoi.
Ah ouais, j'imagine bien. Il faut loger un Matt Cross, il faut loger un Brian Cage, quoi.
C'est exactement ça.
Et il faut loger un Brian Cage avec sa femme Melissa Santos.
C'est ça.
Alors je ne résiste pas, mon bon El Payo, mais parce que j'ai un Discorder sur Catchup qui s'appelle Zygote, qui est un énorme fan de Melissa Santos, et j'aimerais bien que tu lui racontes l'histoire de la petite photographie.
La petite photographie, laquelle?
Sur le téléphone.
Ah, quand on était au Louvre?
Ouais.
Ouais.
Ça va faire plaisir à Zygote si tu racontes cette anecdote.
Ils sont venus avec leur enfant. C'était un petit peu compliqué, quoi, on va dire. Mais non, l'anecdote, par contre, je me rappelle pas.
Bah, tu m'as pas montré une photo en maillot de bain.
Ah, mais ça, c'est... Là, cette anecdote-là, c'est pas vraiment une anecdote. C'est juste qu'elle nous a fait une dédicace, en fait, sur...
Ah, voilà, oui, c'était ça.
C'était plus une dédicace pour tout l'ensemble de la WPE, en fin de compte, avec elle, directement, en maillot de bain, c'est ça. Donc, ouais, elle nous faisait des gros bisous, qui était contente. Mais on a quand même eu le droit à un câlin avec Axel.
On a eu câlin et on a eu la bise de Melissa Santos.
Oh là 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 là, c'est chaud. T'entends ça, Zygote? J'espère que tu es à l'écoute aujourd'hui, parce que là, c'est quelque chose quand même. Melissa Santos, mec. Voilà. Bon, alors, au-delà de la déconne avec Melissa, même si c'est pas du tout de la déconne, quand vous organisez le show, vous savez à ce moment-là, à la fin du show, vous savez à ce moment-là, vous allez pouvoir relancer l'aventure pour 2020?
Ah bon, on le savait déjà avant, hein. De toute façon, c'était quasi sûr qu'on allait refaire quelque chose. D'aussi gros, on va dire qu'on avait vraiment misé gros sur ce show-là.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on a quand même gagné de l'argent sur le show, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est vrai que c'est tout le côté organisation qui était un petit peu compliqué, avec trois grosses stars d'un coup. Donc, si ça serait à refaire, oui. Mais alors, après, il faudrait que l'équipe suive derrière, quoi.
Ok, tu as catché El Payo ce soir-là?
Alors ce soir-là, oui, j'ai catché ce soir-là. J'étais contre Ravage, il me semble.
D'accord, dans un single match?
Oui, contre Ravage.
D'accord.
Ouais, oui, c'était un petit match qui n'a pas duré longtemps, parce que je crois que Ravage, en 5 minutes, il est au tapis.
Ah d'accord. Donc tu gagnes clean?
Oui, okay. Toujours.
Toujours. Monsieur propre.
Toujours. Je ne triche jamais.
Et toi, Axel, ton rôle pendant le show, c'était quoi?
Alors, pendant le show de l'année dernière, on a fait le choix de pas miser sur le commentaire, de laisser les matchs se faire sans voix derrière. Du coup, c'était contraire du coup à ce qu'on avait fait les deux années précédentes, où pas sur le premier show, mais en tout cas sur le deuxième, j'avais commenté. Et du coup, sur Quality Over Quantity, je faisais juste de l'annonce, c'est-à-dire que j'étais le speaker, j'annonçais les catcheurs arrivés.
Ok.
En les boostant un petit peu au niveau du public, parce que c'est pas le public familial de Corbeil-Essonnes ne connaît pas forcément. Même les petits noms comme les gros noms, il les connaît pas forcément. Quand il voit Brian Cage, il voit pas Brian Cage, il voit juste un mec, il voit une armoire.
C'est ça.
Donc ça les impressionne quand même, sans connaître la popularité du gars, il voit juste un bloc. Le mec n'a pas un corps, il a un refus. Et du coup, moi j'aime bien. Quand je fais de l'annonce, c'est pas juste dire les noms. Ah ouais, bah, voilà Brian Cage. Non, c'est oh Brian Cage. Faire quelque chose, faire le show.
Et il a eu une bonne réaction, Brian Cage.
Ouais,
il a eu une très bonne réaction.
Très.
Il a eu une très très bonne réaction.
Le public était chaud.
Ah, il était très très chaud ce soir-là. Je n'ai pas le souvenir qu'il était aussi chaud sur les autres shows. Après, c'est peut-être moi qui vois les choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'il était encore plus chaud. L'année dernière que même il y a 2 ans ou il y a 3 ans.
Bah après ouais, c'est vrai que au même niveau public il y avait plus de personnes l'année dernière. C'est vrai que chaque année il y a plus de monde. Et l'année dernière on était quand même il y avait quasiment un peu plus de 500 personnes.
Ouais, une belle affluence quoi. Alors bon, cette année ça va être plus compliqué, on va y arriver sur 2020. On est encore dans la preview 2019 là. Mais cette année avec les gestes barrières etc, ça va du coup compliquer la tâche quoi. Mais après, moi, ce que je voulais vous demander, c'était backstage, une fois dans le locker room avec les mecs comme Cage, Cross et tout, comment ça se passe avec les autres catcheurs et tout ça, quoi. L'ambiance était sympa, c'était comment ça s'est passé entre vous?
Bah, l'ambiance était plutôt cool. Bon, après, Brian Cage était quand même plus dans son coin. Donc, il s'est pas trop mélangé.
Ouais.
C'est pour ça qu'on essaie d'aller vers lui un petit peu. Sinon, Matt Cross, c'est Matt Cross, quoi. C'est juste. Il n'y a pas de mots, quoi. Le mec est vraiment très très cool.
Alors, Matt Cross, pour le situer pour certains, c'était Son of Havoc à la Lucha Underground.
Donc, vraiment, une personne super gentille, tout ça. Donc, qui n'a pas hésité à donner des conseils. Il a même regardé le show, il était content. Ça, Eddie Ryan, pareil. Une personne vraiment très agréable. Il s'est mélangé avec tout le monde. Dans les vestiaires, c'était plutôt cool.
Ok, donc au final, de toute façon, à tous les deux, on peut dire que l'édition 2019 a été quand même une réussite.
Ah bah clairement, oui.
Ah oui, une bonne réussite.
Est-ce que ça vous a ramené du monde à l'école de catch?
À l'école, ça nous a ramené 2-3 personnes peut-être. Mais bon, après, ça c'est pareil, hein, petit à petit, ça va venir aussi. Hein.
Et toi, Axel, tu comptes catcher cette année en 2020 là?
Cette année là, non, je suis pas encore apte, je suis pas encore prêt. Je veux pas essayer de faire quelque chose que je suis pas capable encore, donc j'ai pas encore les compétences. Je veux vraiment avoir l'aval de mes entraîneurs pour qu'ils me disent, écoute, c'est bon, il y a un petit show machin, est-ce que tu voudrais faire un match machin. Jusque là, moi je demande pas, je suis pas là à réclamer ou quoi. Je suis pas encore prêt, voilà.
Voilà, tu apprends, tu touches à tout, l'annonce, les commentaires, etc. Non, c'est intéressant, tu fais un rôle complet là-dessus, donc c'est parfait. Ok, et ben voilà, et ben ça c'était la review de Quality Over Quantity 2019. Allez, maintenant on va passer au réel, au présent, à la rentrée 2020 de cette année bizarre, cette année de Corona Mania. On va passer maintenant, on va faire un petit peu la preview maintenant de Quality Over Quantity 2020. Alors là, les gars, vous allez me balancer à la carte. Hein. Vous allez me balancer aussi l'organisation, un peu comment ça se passe justement avec les fameux gestes de sécurité liés au Covid-19.
Oui.
Et puis, voilà, un peu, voilà, qui va catcher. Donc, on sait déjà qu'Axel ne va pas catcher. On va savoir si El Payo va venir entre les cordes. Donc, allez-y, les gars. Vous nous présentez le show. Je rappelle, ça se passe le 26 septembre à Corbeil-Essonne au Palais des Sports. À partir de 19h. Et je sais aussi, je vais finir là-dessus, que vous organisez aussi un meet and greet auparavant. Donc je vous laisse la parole. Donc Axel, peut-être pour commencer.
Cette année, le show va avoir une carte énorme, on peut le dire, puisqu'on a énormément de têtes d'affiche sur plein de matchs. Nous allons notamment avoir, pour répondre à ta question, ça a été annoncé il y a quelques jours. Sur Facebook, Twitter, Instagram, que les titres par équipe de la WPE seront mis en jeu pour la première fois.
Ouais, magnifiques ceintures d'ailleurs.
Elles sont vraiment très belles et elles seront mises pour la première fois en jeu. Et notamment, la première équipe à être révélée sera l'Apocalypse Squad.
Présent.
Composé de El Payo et de Shadow, qui est une équipe qui a beaucoup tourné en France, en Europe, un peu partout. Et encore plein d'équipes à découvrir.
Alors ça sera le match tag team. Ensuite, fais-nous la carte avec les matchs et les stipulations.
Alors, les stipulations, il y en aura. Puisque nous aurons pour la première fois en France un strap match.
Je suis pas sûr que ça soit la première fois en France.
Peut-être pas la première fois, mais en tout cas, c'est pas une stipulation qu'on voit souvent.
Non, c'est ça.
Ce sera un match qui opposera Peter Fischer à Aigle Blanc.
Ok.
Qui ont eu beaucoup de matchs ces derniers temps, mais pas pour l'instant en strap. Donc, ce sera un peu une nouveauté pour les deux, de voir comment ils vont s'affronter tous les deux dans cette stipulation. Ensuite, nous avons Mike DiVecchio contre la Sainte Barbe, Antoine Bernard, dans un match sans disqualification.
No DQ.
No DQ match. Le match mixte, qui sera peut-être un des plus gros matchs de la soirée. Cristanium, le surréaliste, contre la star AEW, Shana.
Aha.
Qui est d'être un très, très, très gros match.
Oh, ça va être un très bon match.
Le triple threat, le match triple menace, avec un invité avec la personne mystère dont on ne connaît pas encore l'identité, et qui donc opposera Napoléon et Ultima Sombra
okay.
contre, du coup, cet adversaire mystérieux.
Ouh.
Le main event, c'est le main event
normalement, le main event, ça sera Shanna contre Christian.
La carte est sujette à changement. C'est comme à la WWE.
Et bien sûr, comme arbitre, on aura Artemis.
Ah oui, 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 tout à fait.
Et oui, surtout.
Alors Artemis, elle était, elle a écrit sur les cahiers du catch, parce que Catch-Up, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Catch-Up, on est issu des cahiers du catch.
Ouais.
Et du coup, on avait Artemis avait écrit à plusieurs occasions là-dedans. Et donc ça a été une super bonne nouvelle quand on a appris qu'elle avait été embauchée par la WWE, donc c'est vraiment une vraie chance, c'est vraiment super en fait que vous l'ayez pour le Quality Over Quantity 2020.
Je sais qu'elle avait beaucoup apprécié l'édition de 2019, donc elle voulait vraiment retravailler avec nous, bah là c'était l'occasion.
Et puis vous avez Shanna, notre française qui est à la All Elite Wrestling, quoi, qu'on n'a pas vu catcher depuis un moment avec tout ce qui s'est passé lié au Covid, mais donc du coup c'est clair que ouais c'est une bonne pioche. Vous avez du monde, alors toi El Payo,
oui.
Dans cette carte là.
Oui.
Donc toi, c'est Apocalypse Squad, c'est ça ?
C'est ça, en équipe.
Ouais. Alors avec qui tu fais équipe ?
Avec Shadow.
D'accord. Et vous affrontez ?
On ne sait pas. Pour l'instant.
Pour l'instant, c'est adversaire mystère pour l'instant ?
Bah, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé en tout cas.
Ça n'a pas été annoncé en tout cas. D'accord. Ok. Bon. Ça sera annoncé peu de temps après le show ou avant le show, pardon ?
Je pense que ça va se faire pendant le show directement.
D'accord. Alors, et tu me parles du meet and greet aussi ?
Oui, donc le meet and greet, ça sera à partir de 16h. Donc du coup, ça sera photo, dédicace, enfin rencontre tout simplement, puis un accès anticipé au merchandising. Donc du coup, avec Shanna, Artemis, Antoine Bernard et Mike D, si je ne me trompe pas.
D'accord.
Voilà.
Ah, Mike D, c'est un bon master, il est bien impressionnant lui.
Ah oui, il est vraiment impressionnant. Et il est très jeune en plus.
Je l'avais vu face à la Rufa et vraiment, c'était un gars qui m'avait wow.
Ah, il est costaud. Et puis en plus, bon, il est passé aussi. Il a fait un essai Impact Wrestling où ils sont passés à. C'était où déjà ? C'était à Las Vegas, il me semble. Donc il avait pas mal impressionné. C'est juste un problème de visa.
Ouais. D'accord. Donc du coup, alors ce meet and greet à partir de 16h au Palais des Sports, ça se passe ?
Voilà. Donc normalement, dès que ça se termine, ça devrait être. Le commencement du show, enfin pour entrer dans la salle.
Donc début du show à 19h et combien 2h, 2h30 de show ?
Tout dépendra, ça sera le soir du show. Hein. Ça peut être un petit peu moins long, un petit peu plus long.
Ouais.
C'est vrai qu'on n'est pas. C'est jamais chronométré. Hein, donc, bon.
C'est l'évolution de la carte au fur et à mesure de la soirée. Voilà quoi. Et toi, Axel ?
Alors, je serai toujours à l'annonce.
Ok.
C'est pas encore défini réellement si. Enfin, c'est encore en discussion si on fera du commentaire ou pas. Mais en tout cas, au niveau de l'annonce, ça, c'est sûr que je reprendrai mon micro cette année encore.
Avec une nouvelle sono cette année.
Avec une nouvelle sono.
C'est la dernière, nous a un petit peu claqué dans les doigts au dernier show.
Ah ouais, ah, ça, c'est les problèmes techniques.
Ça arrive. On savait pas que ça allait arriver à ce moment-là, bah, tant pis.
Inhérent à un show de catch, quoi, de toute façon, quoi. Voilà, en plus, le Palais des Sports, pour connaissant la salle, c'est plutôt une belle salle, quoi. Donc, il y a vraiment de quoi faire un truc sympa, quoi. Alors, sur votre carte, là, il y a les titres en jeu. Donc, il y a les titres en jeu tag team.
Okay,
et votre titre individuel, il sera remis en jeu quand ?
Prochainement, tout dépendra du Covid, encore une fois, vu que Matt Cross est le champion
oui.
Et qui vit à Cleveland. Donc, c'est un peu compliqué.
Ok, donc on n'a pas parlé, c'est justement sur les gestes barrières là. Qu'est-ce que vous a imposé la commune ou la communauté de communes, je sais pas.
Ça a été vu avec eux. Bah du coup déjà autour du ring, on aura que 300 chaises déjà, ça c'est sûr.
Ok.
300 chaises, qu'on va faire qu'on espace d'un mètre minimum. Donc ça c'est obligatoire. Gel à l'entrée, obligatoire pour tout le monde. Les masques.
D'accord, ouais, masque obligatoire, d'accord.
Masque obligatoire, bon, mis à part pour le meet and greet où le masque sera obligatoire, mais pour la photo, une fois que la personne sera en place, pourra l'enlever pour la photo, bien sûr.
Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a dans les gradins, il faudra laisser une place entre chaque personne, une place libre.
D'accord.
Et je crois qu'il y a un mètre de distance avec les tables.
Ok.
Les tables de merchandising, la buvette.
D'accord. Voilà. Le prix de l'entrée ?
Alors, donc, c'est 10€ l'entrée pour les adultes. De tête, je crois que c'est 6€ pour les enfants de moins de 12 ans. Et le meet and greet est à 40€ avec place comprise, place autour du ring comprise.
Et bah là, on est complet, quoi. Donc, si je résume un petit peu, Au niveau de la carte, de toute façon, on a quand même du Aigle Blanc, on a du Peter Fisher, on a du El Payo, on a de Shanna, Christianium, vous avez pas mal de noms, vous avez pas mal de... C'est bien, c'est sympa, quoi. Il n'y a pas moyen de s'organiser une petite battle royale, là.
Ça risque d'être trop chargé après, on va dire.
Ah ouais, ça va peut-être.
C'est pour ça qu'aussi qu'on a mis le show à 19h, c'est pour que les gens puissent venir en transport et puissent repartir en transport.
Ouais.
Qu'ils ne soient pas bloqués à la gare, forcément.
C'est bien joué, c'est bien joué. C'est très bien. Bon, en plus, c'est bien. On vous rassure, Corbeil, c'est très bien desservi, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir et repartir sans souci.
C'est ça, la gare est juste à côté. Elle a même pas 10 minutes à pied, je crois.
Et c'est sur la ligne D, donc c'est très facile à emprunter après pour repartir un peu partout ailleurs. Ouais, ouais.
Donc pour tous les gens du peuple de catch-up qui écoutent cette sixième édition du You Talk Too Much, bah, si vous êtes dans la région du 91 ou même de l'Île-de-France, bah, n'hésitez pas, dorénavant vous savez qu'il y a un show le 26 septembre 2020 au Palais des Sports de Corbeil-Essonne à partir de 19h avec la Wrestling Pro Essonne. Vous pourrez y voir notre invité El Payo à catcher et vous y verrez notre ami Axel derrière le mic, donc ça devrait être chaud. Axel, tes fiches seront prêtes là à la Tom Phillips, à la Mauro Ranallo?
Alors moi, mes fiches, je les prépare avec les catcheurs avant le show, ouais. Dans l'après-midi qui prépare le show.
Alors on a, ouais.
Je vais les voir. Bon, il y en a certains où j'ai déjà les informations dont j'ai besoin, puisque c'est des fiches qui sont toujours à jour de ceux qui ont déjà catché chez nous. Mais je leur demande quand même toujours s'il y a quelque chose à préciser. S'ils veulent que je les annonce de telle ou telle façon, que je dise telle ou telle chose sur eux, s'il y a des titres qui possèdent actuellement, qui veulent qu'ils soient annoncés avec, ou si, par exemple, ils ont fait des choses dernièrement dans l'année, par exemple, l'année dernière, Napoléon qui me demandait de préciser qu'il revenait tout juste du Japon et qu'il était le maître du high poke.
Ok.
À tes souhaits.
Donc voilà, ça se prépare avec ça se prépare avec eux, et après, voilà, et après, je balance.
Du coup, tu faisais... des annonces en anglais aussi ?
J'en ai fait une, même pas pour un étranger. Enfin, si techniquement, ce sont des étrangers, mais pas anglophones. J'ai fait une partiellement en anglais pour MBM et Ultima Sombra, qui voulaient être présentés comme « The most entertaining tag team ever » ou quelque chose comme ça.
Ok.
Sinon, après, ça reste en français, sauf pour les surnoms, évidemment. Les surnoms des catcheurs américains.
Donc du coup, est-ce que tu nous as fait une entrée comme « The following contest is getting for one fall, and it is for the WPE Championship !»
Alors, j'ai fait la même, mais en français. Parce que, voilà, on a énormément de familles. Pour le folklore du jeu, ça peut être rigolo de la faire en anglais. Surtout que dans le match pour le titre WPE, le vrai match, hein, sans l'intervention... de Matt Croches, il y avait que Eddie Ryan qui était anglais, et le public, ben, il parle pas forcément, il a pas forcément les codes, et ça a plus d'impact pour lui d'entendre en français que ce match est pour le titre de la WPE, en forçant bien le trait, en français ça a plus d'impact chez eux que de le faire en anglais.
D'accord. El Payo, je te la ferai en espagnol si tu veux.
Pas sûr que je comprenne plus, mais pourquoi pas.
Excellent, excellent. Bon, bah, je crois qu'on a déjà, on a fait bien le tour là du show là. Voilà, on rappellera à la fin de cette émission les infos, quoi, histoire que vous les ayez bien dans le crâne, les amis. Là, maintenant, on va passer à une petite partie un peu plus catch, quoi, un peu plus technique. Alors, du coup, bah, ça va être sympa parce que comme on a Axel qui est en formation, qui est en train d'apprendre un peu finalement ce que c'est que le métier d'un catcheur, et puis à côté de ça, on a un trentenaire catcheur, voilà. Confirmé dans l'émission, donc ça va être intéressant d'avoir les deux points de vue. Alors je vais commencer avec le catcheur confirmé. Alors mon bon El Payo. Alors,
tout à fait.
Tu vas nous expliquer, Ravi, tu vas nous faire un petit résumé vite fait de comment t'es rentré dans le catch, que t'as aimé faire, tes grands faits d'armes, tes ceintures, ta vie, ton œuvre dans l'ignoble sport et comment ça se passe pour toi, voilà, dans le wrestling indépendant français, quoi. Puis on parlera un petit peu après du ressenti de vraiment dans le ring. Qui tu es, quel genre de catcheur tu es, es-tu un heel, es-tu un face?
Alors je viens de Tchernobyl. voilà. Donc je suis infecté. d'où le masque et les yeux verts.
D'accord.
Partout où je suis passé, des centrales nucléaires ont explosé, forcément.
Ah ouais, t'es un mec à problème quand même.
Ah, bah, je vois pas le problème, mais c'est pas grave. Sinon, j'ai commencé le catch parce que, bah, comme tout le monde, comme tout catcheur, je pense, j'étais fan aussi à l'époque, je regardais le catch. J'ai commencé du coup à l'association de catch Essonne, donc il y a 10 ans maintenant, à peu près.
Ok. On
va faire ça. Voilà, après, je suis passé du coup par la FFCP. Et après la FFCP, bah, du coup, je suis vraiment sorti. J'ai catché un petit peu pour tout le monde. Donc, j'étais vraiment indépendant. Donc, bah, tous les week-ends sur la route. Un jour, le samedi quelque part, le dimanche ailleurs, donc beaucoup, beaucoup de routes.
Ouais, mais bah, après ta carrière en fait de catcheur, t'es passé un peu par différentes fédérations, donc...
C'est ça, je suis passé à la CSC, j'étais en Belgique.
Ouais,
en...
Je sais que t'as touché pas mal de ceintures, finalement, des ceintures tag team, des ceintures individuelles.
Bah, de tout, ce que je sais, bah, avec, donc avec Shadow en équipe, l'Apocalypse Squad, en 2017-2018, je crois, on était l'équipe la plus titrée d'Europe.
Ah ouais.
Ouais, on avait, je sais pas, je crois en tout, on avait 12 titres, je crois.
Ah, c'est la fameuse photo. C'est la fameuse photo que tu m'as montrée.
Il y a encore sur la photo, il en manque.
Il en manque, d'accord, ouais.
Il en manque, il n'avait pas de place.
Allez sur le Discord de Catch-Up, Peuple de Catch-Up, et vous verrez, vous trouverez les photos. On vous transmettra les photos de notre ami El Payo. T'as beaucoup tourné, en fait, dans le circuit indépendant français.
C'est ça, pendant 5-6 ans, j'ai pas mal tourné.
Et après, tu t'es décidé, en fait, à te coller dans une structure... plus complète, et vous avez créé la Wrestling Pro Essonne.
À la base, la création de la Wrestling Pro Essonne n'était même pas prévue pour faire des shows ou quoi. À la base, c'était, on voulait vraiment créer ça pour que les catcheurs qui sont de passage, en fait, aient un endroit pour s'entraîner.
Ok.
Donc, on cherchait un endroit, donc à la base, ça devait être dans un chapiteau. Ça ne s'est pas fait, et du coup, tant mieux, parce qu'au final, j'ai eu un coup de téléphone de la mairie de Corbeil Essonne, qui du coup nous laissait le palais des sports à titre gratuit pendant tant qu'on voulait, quoi. Donc après on s'est dit pourquoi pas faire une école. Donc on a créé l'école, et après bah du coup on s'est dit bon bah vu qu'on a des bons catcheurs qui sont arrivés comme Georges Balzac qui est un produit WPE, on s'est dit bon bah on va lancer des shows. Et puis bah voilà, maintenant on en est là.
Alors vous êtes combien à gérer cette structure à peu près là? C'est une petite équipe hein, évidemment.
Ah oui, on est 4-5.
Comment ça marche une promo comme ça? Comment c'est financé déjà? Vous avez de l'apport personnel, et puis après, est-ce que vous avez des aides des collectivités? Est-ce que vous avez des aides des fédérations sportives? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Bah, faut savoir que bah, quand on est arrivé déjà, tout ce qui était sponsoring et tout ça, c'était un petit peu trop tard au niveau des demandes. Donc c'est vrai que le premier show s'est fait, en gros, c'est nous qui l'avons financé. Hein. Le tout premier, c'est nous qui l'avons financé.
Ouais.
Donc le premier, du coup, bah, a été remboursé tout de suite. On n'a pas fait de plus, on n'a pas fait de moins. Donc on s'est dit bon bah l'année d'après on va faire la même chose, mais entre temps on a eu des sponsors. Le show a super bien fonctionné, donc bah après ça fait un fond de roulement, puis bah petit à petit les shows maintenant se font tout seuls. En fin de compte hein, c'est nous qui c'est pas subventionné, mais c'est nous qui gérons le financement, on va dire.
Ouais.
Maintenant là depuis cette année on a un sponsor, là il y a un deuxième sponsor qui est en train d'arriver, donc j'ai rendez-vous avec eux la semaine prochaine pour voir ça.
Ouais, ce que vous avez besoin, c'est peut-être un peu plus de sponsors déjà.
Le plus dur, en fin de compte, ça a été vraiment de rentabiliser le premier show. Une fois que le premier show était rentabilisé, maintenant c'est parti tout seul.
Oui, tu avais déjà les sous pour pouvoir organiser ton show déjà sur l'année 2020, quoi.
Ah oui, clairement, oui, bien sûr. Sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont parlé en disant que c'était pas possible qu'on ait pu faire du bénéfice parce qu'on ait ramené telle star. Que c'était impossible, mais au final, si.
Bah écoute, c'est super. Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle, quoi, si tu veux. Quoi. Parce que, vu comment le catch français, c'est compliqué d'émerger, de faire quoi que ce soit, de sortir quelque chose. Il y a plein de fédérations dans tous les sens. Voilà, ça manque d'unité, un peu, tout ça. Et donc, c'est bien que, tu vois, une fédération comme ça, régionale, départementale, appelez-la comme vous voulez, prenne le pas et, en montant un show, réussisse à pouvoir le pérenniser. C'est ça qui est top, quoi. C'est que ça vous permet de continuer, quoi.
C'est ça, exactement.
Et pour l'école des catchs, c'est tout bénef. Et pour l'équipe que vous êtes, c'est tout bénef.
Ben, c'est ça. Puis il faut savoir que c'est compliqué au niveau financier pour les mairies, tout ça aussi. Donc, c'est vrai qu'au début, il a fallu qu'on se lance tout seul.
Ouais, alors je sais que début septembre, le 4-5 septembre, vous serez. La WPE sera présente aussi au forum à Corbeil.
Corbeil, c'est ça, oui.
Où vous aurez monté le ring, c'est ça?
Le ring sera monté, oui.
Ouais.
Oui.
Puisqu'il faut dire, c'est ça, c'est que vous disposez aussi de votre propre ring, que vous pouvez déplacer d'un endroit à un autre.
Bah, le ring, en fin de compte, nous appartient pas, en réalité. Le ring, on le partage avec Atlas, du coup.
D'accord.
Donc, avec la structure de Elmer Le Guenec. On s'entend très très bien en partenariat, donc du coup, bah, le ring fait partie du partenariat en fin de compte. En attendant d'avoir le nom.
Ouais. Alors du coup, on revient un peu sur la partie catch. Donc on a cité un peu, voilà, t'as pas mal bourlingué, t'as beaucoup catché, tu catches encore de toute façon, t'es un actif. De toute façon, t'es dans la fleur, t'es dans la fleur de l'âge, croisant ton bon tonton. Donc, t'as encore de quoi donner. Alors je sais que t'as donné cher de ta personne. C'est pour ça qu'on va parler un peu de ce qui se passe entre les cordes. Alors tu vois, je profite de ces émissions là. Moi, j'en avais parlé avec Sturi, j'en avais parlé avec Cody McQuaid, avec Nathan, avec la Taloche, avec les différents invités que j'ai eu là-dessus. Voilà, on oublie souvent en fait de décrire ce qui se passe véritablement entre les cordes, comment on le vit dans sa chair, tu vois. Et moi, je sais que tu as vécu des blessures et tout ça, et j'aimerais bien que tu expliques un peu aux gens, voilà, ce que c'est qu'être un vrai catcheur quand on est vraiment entre les cordes, qu'on se prend des bumps, qu'on se prend des souplesses, qu'on se prend des clotheslines, qu'on répète ça soir après soir, comme tu dis, hein, c'est la vie d'un catcheur. Tu prends la route, tu prends la bagnole, tu fais des bornes et des bornes, derrière tu arrives, tu te prends des bumps, tu te prends des bagarres. Donc, comment ça se vit, ça, dans la chair d'un catcheur?
Une vie de catcheur, c'est pas facile, hein, déjà, pour commencer. Parce que beaucoup de gens disent que le catch, forcément, est faux. Et tout ça, mais bon, je peux vous assurer que se prendre un bump sur le ring, justement, faut le prendre, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas un trampoline, et c'est des planches de bois, hein, réellement, avec une structure en ferraille. Donc, faut savoir chuter, faut savoir prendre la chute, quoi. Ce qui est assez compliqué.
Ces chutes, tu les as appris à travers des arts martiaux, toi, ou tu les as appris vraiment dans une formation de catcheur?
En fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à l'école de catch à la CE que j'ai commencé à apprendre les chutes. Plus tard, j'ai fini du coup à la FFCP à apprendre. Et même toujours aujourd'hui, on apprend toujours à chuter, hein, parce que bon, mine de rien, faut que les chutes soient bien faites pour éviter la blessure. Tellement que c'est pas un trampoline, je me suis pris quand même 3 commotions cérébrales en 10 ans. Ce qui n'est pas rien.
Ah non.
Donc, pour dire que le catch, vraiment, c'est pas du faux, quoi. Les coups sont portés, les chutes sont portées, et ça fait mal.
Et alors, explique-moi comment tu es organisé dans le ring avec ton adversaire, qui est en l'occurrence ton partenaire. Comment vous préparez votre match, en fait, là? Comment vous préparez votre match backstage? Tu le vois quelques minutes avant? Tu le vois l'après-midi d'avant? Tu le connais déjà depuis longtemps, tu le connais pas, comment ça se passe?
Vraiment, ça dépend, mais avec l'expérience maintenant, c'est vraiment un feeling. Vraiment, quand on rentre sur le ring, on se comprend, quoi, de toute façon.
Tu arrives à avoir un match avec un mec que tu connais pas, sans avoir de préparation au préalable avec lui là-dessus?
Il faut se dire, on se croise beaucoup sur le ring, hein, de toute façon. Donc, c'est vrai que maintenant, on se connaît pas mal, hein, de toute façon, la plupart.
Et après, tu préfères catcher comment? Par équipe ou en single?
Avant, j'aimais beaucoup en single. Mais c'est vrai que maintenant, je vieillis quand même un petit peu. Voilà, je me dis que le match par équipe, c'est pas mal aussi. Ça permet de se reposer un petit peu.
Ouais, ça protège plus.
Voilà, c'est ça. Ça évite les blessures. Donc c'est vrai qu'en équipe, je préfère maintenant.
T'as pris des commotions et t'as pris quoi comme autre genre de blessure?
Luxation, je me suis disloqué l'épaule, nez cassé.
Et tout ça pas pour des salaires de la WWE, mes amis, hein. Pour un salaire de la Wrestling Pro Wesson, hein. Alors voilà ce que ça donne dans le catch. Alors Axel, je viens un peu vers toi. Axel, là, toi tu commences là, ça fait 2 ans que t'es lancé là-dedans, que tu te prends des bumps, que tu te prends des souplesses. Je suis passé à un de vos entraînements un lundi soir, t'étais pas là, espèce de feignasse, t'étais un no-show, mais j'ai vu un peu tes collègues passer quelques souplesses et tout ça. Comment toi tu le ressens là, justement, dans ta chair, ça? J'imagine que tu as déjà fait des répétitions de match avec des collègues et tout ça. Donc comment toi tu le ressens là, physiquement et psychologiquement?
Alors déjà, je n'étais pas là la semaine dernière parce que nous étions passés au show de la Rix en Bretagne, et qu'en Bretagne il pleut, et que j'avais chopé la crève.
Bien sûr.
Mais bien sûr.
Mais moi aussi j'y étais en Bretagne, j'étais pas malade.
Moi aussi. C'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait, au tout début, on a beaucoup d'appréhension. Parce que c'est pas naturel de vouloir se jeter, de tomber sur le dos, machin. C'est pas naturel du tout. Au début, il y a toujours une appréhension. Mais c'est vrai que quand on a dépassé l'appréhension de se dire « je vais tomber, je vais me faire mal, mais je vais bien tomber et je vais pas me blesser », eh ben, on tombe bien, on se fait pas mal et on se blesse pas. Mais on se fait quand même un peu, enfin... Au bout d'un moment, on a quand même un peu mal.
Tu te prends du choc, quand même.
Voilà, on se prend le choc. Mais on se blesse pas, quoi.
Bah attends, ça c'est parce que pour l'instant, t'as chuté qu'en entraînement.
Voilà, j'ai chuté aussi qu'en entraînement. Je n'ai pas chuté aussi en conditions réelles de match devant des gens, tout ça. Mais c'est vrai que du point de vue juste purement entraînement, c'est vrai que le plus dur, c'est vraiment le blocage psychologique. Je sais que j'en ai encore sur pas mal de points, notamment sur la hauteur, où dès qu'il y a un peu de hauteur, bah, j'ai encore des appréhensions. Donc après, voilà, c'est des choses qui se travaillent, qui se débloquent au fil du temps.
Tu te sens plutôt heal ou plutôt face?
Alors moi, je me sens plutôt face parce que c'est le genre de cage vers lequel je me retrouve et sur lequel je me tourne. C'est du comedy wrestling, c'est du comique, c'est du drôle, c'est faire rire les gens et ça va plutôt avec du face. Moi, c'est ce que
D'accord.
j'aime bien.
Axel, notre top babyface de l'émission de YouTube Too Much, c'est parfait. Et toi, El Payo, t'es plutôt heel, plutôt face, et c'est quoi ton style de catch?
Moi, je suis vraiment heel. Toutes les crasses que je peux faire, je le fais.
T'es un salopard, toi.
Ah, ben, toute occasion est bonne à prendre. Hein.
The master of opportunity.
J'aurais jamais eu autant de ceintures sinon.
Et ton style de catch, alors de quoi tu t'es inspiré plutôt? Est-ce que tu t'es inspiré du catch américain? Est-ce que tu t'es inspiré du catch mexicain? Est-ce que t'avais plutôt un style lié à la lutte olympique? Comment tu t'es approprié ton style de catcheur en fait?
Ben, en fin de compte, quand j'ai commencé, je devais faire 70 kilos à tout casser, je pense, par là. Donc j'étais vachement plus dans la voltige. C'était tout ce qui est saut de la troisième, je faisais des ciseaux de tête, des choses comme ça. Et avec le temps, bah forcément, la salle de sport, la bonne bouffe aussi, mine de rien. Hein. On va pas se cacher, maintenant je suis à 115 kilos.
Oui, parce que je te connais, et ma foi, un fort beau gabarit.
115 kilos, il a fallu que je m'adapte, hein, parce que bon, la voltige, on oublie.
Ah ouais, c'est plus compliqué.
Donc maintenant, voilà, je suis plus brawler, je suis dans le tas, quoi, directement.
D'accord, donc tu es un striker, voilà, tu utilises
Voilà.
un peu moins de high flying.
Ah bah plus du tout. C'est pour ça que on se complète plutôt bien avec Shadow en équipe, parce que lui doit faire 70 kilos par là, 65 peut-être. Donc du coup, bah tout ce qui est pris en équipe, je lui fais des portées, je le lance sur les autres, je le lance à l'extérieur, enfin, je suis plus dans le lancer.
D'accord, ouais, vous êtes complémentaires en fait, du coup, c'est bien
Ouais,
quoi,
c'est ça
c'est une
exactement.
tag team complémentaire. Le brawler de Corbeil, quoi.
Exactement.
Donc le El Payo. Alors, dans les titres, tiens, bah, si, ça m'intéresse ça aussi, puis peut-être qu'il y a peut-être des auditeurs aussi qui ne savent pas ce genre de truc, mais dans les différents titres que tu as pu gagner en individuel comme par équipe,
Oui.
il y avait quoi comme titre, des titres de fédé et tout ça?
Donc j'étais champion poids lourd de la CACC qui est dans le Nord, que d'ailleurs techniquement je suis toujours parce que je suis parti sur blessure, donc
Ah ouais.
techniquement la ceinture m'appartient encore. Bref,
Ouais.
ça c'est une autre histoire. J'étais aussi champion par équipe de la CACC, champion par équipe de la CSC. Qu'est-ce que j'ai été d'autre? J'ai été champion silver de la CE, champion ACE. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a tellement de titres, je ne me rappelle plus.
Là, le mec, c'est Triple H.
Ah non, de tête, c'est vrai que c'est compliqué, j'en ai beaucoup, beaucoup. J'ai été deux fois champion par équipe à la CSC. Très bonne structure d'ailleurs aussi, qui est située à Compiègne.
Tu t'es retrouvé à tourner avec des gens comme Flash Gordon, comme Mercier, comme ces gens-là.
Marc Mercier beaucoup, oui. Parce que du coup, c'est même lui pour le coup qui m'a fait mes premières télévisions. Sur Canal+ et tout ça. D'ailleurs, je lui remercie encore. Après, c'est vrai que Flash Gordon, jamais rencontré. Parce que c'est vrai que la Wrestling Star, c'est vraiment à part. En fait, quasiment tout le monde sauf Flash Gordon. Quasiment.
D'accord. T'as catché face à qui là, parce qu'on a parlé du show là, de Quality Over Quantity. Donc du coup,
Oui.
t'as catché face à Aigleban, à Senza Volto. Alors Senza Volto qui était annoncé d'ailleurs cette année en 2020 au départ, et puis qui finalement a été booké à la WXW. Et donc du coup, voilà, dans le paysage, on va dire, du catch français. Donc du coup, est-ce que tu as affronté, je sais pas moi, un Tristan Archer, un Tom LaRuffa, Aigleban, Antoine Bernard, tous ces gars-là, face à qui tu t'es retrouvé?
Bah, Aigle Blanc plusieurs fois, mais à ses débuts. Après, Antoine Bernard, il me semble, une fois à la CACC, je crois.
T'as affronté Sturie?
Non, par contre, j'ai travaillé avec lui plusieurs fois dans d'autres projets quand on faisait du catch en boîte de nuit.
D'accord, ouais. Je crois même qu'il m'en avait parlé pendant un big up à Sturie d'ailleurs de C'est ça le catch. Allez l'écouter. C'est assez incroyable son imitation de Vince McMahon est savoureuse. Et ouais, donc t'as bossé avec le Sturie, quoi.
Oui, à l'époque, ouais. Ça date un petit peu, mais ça date.
Le monde est petit, hein, le monde est petit, hein, comme quoi, hein, tu vois, on se retrouve tous, c'est assez marrant,
C'est
quoi.
ça. Non, mais après, par contre, j'ai travaillé avec des gens comme Chris Master.
Ah, t'as travaillé à Chris Masters, ah ouais.
En Belgique, ouais.
D'autres Américains?
Bah, je suis en train de chercher de tête, c'est pareil, je me souviens plus trop. Je sais que Chris Master, c'est arrivé deux fois, je crois.
Quand Cage est venu, t'avais pas profité, t'avais pas fait un petit run avec lui?
Non, non, parce que ça a vraiment été compliqué. Tout était chronométré, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais.
De là, arriver sur Corbeil, ensuite faire le show, repartir derrière, les ramener. Parce qu'après, en plus, il est resté une semaine sur Paris. Donc là, par contre, on a profité un petit peu. Bah, du coup, on était au Louvre avec eux. On a visité un petit peu Paris.
Donc ouais, et t'as croisé le fer justement avec des Américains dans le ring à l'occasion en France?
En France, non. Non, non, j'en ai croisé pas mal en Belgique notamment.
Ouais.
En France, c'est vrai que ça a été rare. Bah, on n'en voit pas beaucoup en France non plus. Donc,
Oui, c'est sûr que ouais, il n'y a pas forcément, à part quand t'as les shows de la WWE qui débarquent à Paname, mais c'est pas vraiment dans les mêmes
c'est
conditions.
Ça. Exactement.
Et en général, malheureusement, le circuit français n'est pas véritablement invité d'ailleurs dans ces shows-là, ce qui est bien dommage. Moi, je me rappelle au House Show de 2016 à Paris où il y avait une partie du public qui avait demandé Clément Petiot, puisque c'était le nom de Clinton Archer à la WWE. Et voilà, à part avoir Aljus et Chéreau, c'est tout ce qu'on a comme représentant du catch français au moment quand la WWE vient. Donc ça, c'est un peu dommage. On peut lancer un appel d'ailleurs à la WWE. Venez sur Catch Up et venez nous entendre vous dire que vous avez le droit de faire de la pub pour les promos françaises aussi.
Quoi. Exactement.
Axel, toi, quand tu vois un peu El Payo à l'œuvre, puisque bah, vous bossez ensemble hein, depuis pas mal de temps maintenant, ça te donne envie là pour le futur de rentrer quand même définitivement, là, de faire ton premier match de rookie, ton baptême du feu?
T'as intérêt à dire que oui, hein, sinon je te frappe.
Ah bah oui, même si voilà, il nous raconte bah, les blessures, tout ça, au final, ça donne bah, quand même envie de vouloir quand même se lancer là-dedans. De toute façon, quand on se lance là-dedans, on connaît les risques. On sait ce qui peut arriver, mais c'est pas pour ça que on va forcément s'arrêter si on a la passion, si on a envie.
Ouais, t'as la passion depuis que t'es gosse, quoi.
Pas exactement depuis que je suis gosse. Quand j'étais plus petit, je gardais, mais c'était un petit peu vite fait. C'est plus tard. Bah, c'est un peu avant la découverte de la WPE, un petit peu avant leur premier show, que je me suis vraiment remis là-dedans, que je me suis réembarqué dans la machine. Mais ouais, ça me donne toujours autant envie de vouloir progresser, m'entraîner, donner le meilleur de moi-même.
Bah justement, c'est intéressant de savoir ça. Du coup, je voulais vous demander un peu à tous les deux voilà, la partie un peu fan. T'es arrivé comment sur le catch avant d'arriver débarquer à la WPE et tout ça, voilà, en tant que fan, c'est la WWE, j'imagine, qui t'a biberonné.
Oui, bah voilà, bah comme je te disais, quand j'étais môme, je regardais ça à la télé un petit peu vite fait. Mais après, ça avait disparu de la TNT. Et c'est par le plus grand des hasards que je suis tombé là-dessus, sur les chaînes du groupe AB. Et après, bah, je me suis un peu déporté. Maintenant, la WWE, je regarde presque plus à part NXT. Je me suis vraiment déporté du côté du Japon.
Ah, on a un chroniqueur, l'ignoble Ringside, qui est un grand fan de la NJPW. L'amiral aussi, qui est un grand fan de la NJPW.
Bah, moi, c'est vraiment. Enfin, je regarde. Maintenant, quand je regarde du catch, même sur YouTube, Dailymotion ou comme ça, tout ce que je regarde, c'est des vieux matchs japonais de la War, de la Noah, de Big Japan, même de NJPW. Ah ouais. C'est ce que je consomme, c'est le produit que j'aime.
D'accord, donc tu regardes que la NXT véritablement à la WWE. Tu regardes pas la All Elite Wrestling, ni Impact, ni la Raw.
Alors, en d'autres fédés, si, en américain, en américano-mexicain, je regardais beaucoup la Lucha Underground quand ça passait.
Ah oui,
très bon produit.
C'était vraiment super. Après, ouais, je regarde un peu la All Elite, un peu de loin. Je regarde surtout les pay-per-view. Les weekly, je regarde plus trop. Et après, ouais, niveau WWE, ce que je regarde, c'est que c'est quasiment que NXT, sauf, par exemple, s'il y a une carte qui intéresse beaucoup, genre, par exemple, WrestleMania, peut-être. Ça peut être intéressant de voir ce qu'ils font à WrestleMania, mais de manière générale, c'est plus tellement ce qui m'intéresse et ce qui m'inspire.
Et toi, El Payo, alors, comment t'es venu au catch? Comment tu suis le catch? Alors, tu disais en début d'émission voilà, que t'avais plus trop le temps et tout ça. Mais globalement, toi, en tant que catcheur masqué, là, comment t'es en tant que téléspectateur masqué?
Ah, moi, j'ai adoré la Lucha Underground.
Ah, ouais. Ah bah là, on est trois fans de Lucha Underground, alors là, je crois.
Ah, vraiment, le produit était vraiment top. Après, moi, j'ai commencé par la WWE à l'époque. Mon tout premier show, c'était SummerSlam 92.
Oh la vache, un show historique en plus, quoi. Oh là là, avec ce main event énorme entre Bret Hart et le British Bulldog à Wembley. Oh là 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 là.
Je, me rappelle, c'était avec mon papa, on regardait ça à l'époque. Donc j'avais quoi? J'avais 3 à 4 ans peut-être. Et après, bah, du coup, j'ai continué la WWE. C'est vrai que même maintenant, si vous avez le temps de regarder, le produit me correspond plus. Donc c'est vrai que je vais regarder NXT TakeOver, les trucs comme ça, parce que là, ça reste bien. Mais sinon, non, j'ai complètement arrêté de regarder.
T'aurais aimé y être?
Ah bah bien sûr, ça après, je pense. Ça, c'est quand même... C'est le rêve de tout le monde, ça, je pense. Hein.
Ouais, quoi, quand tu regardes les shows comme ça, tu te dis, bah finalement, j'ai pas été loin parce que je le suis quand même, je suis un catcheur et tout ça, quoi. Et des fois, on se dit, ouais, bah ouais, on rêve toujours, quoi. C'est ça qui est bien, quoi.
Ah bah, de toute façon, comme je discutais encore avec un ami il y a encore une semaine, deux semaines de ça, il m'a dit, t'imagines quand même, il me dit à l'époque, ton rêve, limite, c'était d'arriver chez Marc Mercier à la Catch Academy. Il dit, et puis ça s'est fait, tu l'as même surpassé, le truc, et puis voilà.
Ouais.
À l'époque, jamais j'aurais pensé devenir catcheur, vraiment.
Et du coup, en tant que consommateur de catch, du coup, dorénavant, quand t'en consommes, tu regardes quoi?
Voilà, bah, je vais regarder NXT, quand il y a les takeover qui passent, la All Elite, ça dépend, vraiment, il y a des matchs qui vont plaire, d'autres moins, voilà, après, mes élèves me forcent à regarder le catch japonais, que je ne regardais jamais. Bah, il me force un petit peu, mais bon, c'est pas trop ma cam non plus, mais ça va, franchement, ça va. Et sinon, vraiment, le top du top, c'est la Lucha Underground.
Ouais, alors malheureusement, il faut bien dire que la Lucha Underground, c'est terminé.
C'est ça.
Voilà, il y aura eu 4 saisons qui étaient ponctuées chacune par un pay-per-view. Ça s'est arrêté. Voilà, et du coup, avec Wade Barrett, qui était la toute dernière image de la Lucha Underground, qui était censée arriver pour la 5e saison et qui n'est jamais venue. D'ailleurs, Wade Barrett, dans l'intervalle, il est retourné à la WWE puisqu'il est commentateur à NXT.
Exactement.
Quand c'est arrivé la Lucha Underground, alors là, moi, ça a été vraiment...
C'était magique.
Pour moi, un vieux suiveur comme moi, vois-tu, c'était une espèce de petite révolution dans ma tête.
Ah oui, clairement.
Et puis, comme je suivais la AAA, que je suivais un peu la CMLL aussi, je suivais le catch voilà, mexicain, c'était un plaisir de retrouver des mecs comme Pentagone, comme Phoenix. Alors, on peut signaler que les Lucha Brothers, ils sont de retour à la All Elite Wrestling. Ouais. Tu les as pas vus ou en rencontré ou je sais pas quoi, les Lucha Brothers, toi, ami El Payo?
Ah, si, je les ai rencontrés. Ah, c'est quand on est en déplacement, du coup, pour aller voir le 16 Carat Gold de la WXW.
Ah oui, gros tournoi, ça.
Très gros tournoi. Du coup, on a pris du temps ça, pour discuter. D'ailleurs, je crois que j'ai une ceinture à la maison couleur du 16 Carat Gold dédicacé.
Ah oui.
Voilà, voilà.
C'est marrant qu'en fait, t'as tourné tellement partout et du coup, t'as rencontré des gars d'un peu de tous les horizons.
Bah là, c'était pas vraiment en tant que catcheur, c'était vraiment parce que on était sur le lieu. Et après, bah, avec les connaissances et tout ça, bah, ça va vite. Après, hein, forcément, on a forcément les mêmes connaissances, donc ça se discute, et puis voilà.
Et toi, Axel, du coup, t'inséré dans ce milieu du catch, là? Comment tu te sens avec les catcheurs dans le locker room, tout ça, dans l'organisation, dans le booking?
Bah, c'est impressionnant. Quand tu t'entraînes, quand tu as l'entraînement, t'es pas dans le milieu. T'es pas dedans. Et en fait, la porte que j'ai dans le milieu, c'est pour l'instant, c'est juste l'annonce. Donc c'est comme ça que je peux les rencontrer, entre guillemets. Quand tu les vois un petit peu, genre, préparer leur match, ou même tu les vois juste se préparer, se faire machin, et qu'après tu les vois sur le ring, c'est sûr que ça t'impressionne toujours parce que tu te dis, tu vois à quel point ils font un taf qui est dur. Ça te donne encore plus envie de progresser, de travailler, ça te donne encore plus envie de bosser pour pouvoir t'insérer et arriver à leur niveau, quoi.
Ouais.
C'est quelque chose qui est ultra motivant, en fait. Parce que tu les vois dans les coulisses, tu vois comment ils sont, tu vois comment ils travaillent, tu vois comment ils se préparent. Et après, tu les vois sur le ring. Donc, t'as vraiment toute la progression du truc dans les locker rooms jusqu'au sur le ring. Ça me motive encore plus, quoi.
Et toi, El Payo, toi, par contre, c'est un peu différent. T'as l'expérience du ring et tout. C'est quoi l'ambiance, en fait, avec les autres catcheurs quand t'es de l'autre côté du miroir?
Avec les autres catcheurs, c'est-à-dire les Américains, des choses comme ça.
Ouais, ou même tes compatriotes français, nos chers catcheurs tricolores, comment ça se passe, l'ambiance globalement? Parce que c'est un petit monde, le monde du catch français.
Ah, bien sûr, bah, tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît plus ou moins, et tout le monde a bossé plus ou moins ensemble, et du coup, comment tu juges l'ambiance générale?
Oh, bah, l'ambiance est vraiment bonne, hein. De toute façon, je sais qu'à WWE, par exemple, dans les vestiaires, tout ça, l'ambiance est cool, tout le monde rigole avec tout le monde. Non, franchement, tout le monde s'entend plutôt bien. Enfin, après, il y a des petites guerres de structure, forcément.
Ouais, les guerres de clans, voilà. Des machins, c'est du catch.
Voilà, exactement. Mais sinon, dans l'ensemble, tout le monde s'entend bien, quoi.
Bah, voilà, mais j'avais une dernière question. C'était à propos du booking.
Oui.
Je voulais vous demander, en fait, comment ça se passait voilà, quand on organise un show comme le vôtre. Comment on organise son booking l'après-midi ou une heure avant le show ou quoi que ce soit. Est-ce que vous faites une réunion avec tous les catcheurs ou est-ce que c'est match par match, chacun fait son truc un peu de son côté? Vous arrivez, vous déclinez juste le plan aux mecs en leur disant, bah voilà, l'opener c'est ça, la mid-card c'est ça, le main event c'est ça, puis après les mecs organisent leur truc. Comment ça se passe ça? Comment ça se passe le booking? Comment on est à Monday Night Raw? Et bah, comment on est à Quality Over Quantity?
Bah, faut savoir qu'on on choisit donc juste lors des matchs en fin de compte. Et on dit bah tel un tel vous êtes ensemble nanana, et par contre bah, après je donne carte blanche par exemple, donc c'est vrai que le match ils font exactement ce qu'ils veulent quoi.
D'accord. Toi t'as juste donné la ligne directrice par rapport à par exemple celui qui doit gagner le match ou celui qui doit remporter la ceinture.
Ça je ne dirais pas, mais
Tu veux garder les secrets, d'accord, ok, il veut garder les secrets, il veut garder le kayfabe.
Je ne dirais rien. Non, par contre ils font vraiment ce qu'ils veulent quoi, c'est vrai que ouais. Je me rappelle, l'année dernière, on avait dit à Matt Cross parce qu'on avait un petit souci de corde sur la troisième corde. Et on lui a dit, par contre, fais attention avec les cordes. Si tu ne te sens pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Quoi. Et au final, bah, il a fait comme il l'a senti et puis tout s'est bien passé. Hein.
Donc en fait, vous êtes pas, il n'y a pas un gars, c'est pas Paul Heyman qui gère Monday Night Raw. Vous êtes plusieurs et vous vous organisez avec les différents catchers, vous donnez l'ordre de la carte et puis c'est parti. Quoi.
Exactement.
Ouais, ok, ouais, je vois le truc, quoi. Mais ça fait du monde dans le locker room, et puis ça fait du bonhomme et de la.
Ah oui.
à gérer, quoi, tout ça.
C'est sûr.
Et tout le monde touche à tout. En fait, c'est ça qui est bien aussi dans les structures peu importantes. C'est aussi que ça permet à tout le monde, finalement, de s'investir un peu dans le show. Et parce que j'imagine que toi, le El Payo, tu fourres ton nez partout.
Ah, partout. partout.
Et donc, Axel, on va te retrouver au micro à Corbeil, donc.
Voilà, exactement.
T'es déjà chaud? T'es déjà... La carte te plaît?
Oh, la carte, elle me plaît énormément et je suis ultra hype à l'idée de pouvoir annoncer au micro Shanna, Antoine Bernard, tous ces gens. Je suis ultra excité à l'idée de pouvoir les annoncer.
Ben ainsi s'achève cette édition, mes deux amis. Là, je vais vous couper le micro parce que vous parlez beaucoup trop, quoi. Bon, en même temps, on est à You Talk Too Much. Hein. Donc voilà, donc écoutez, c'était génial de vous avoir tous les deux. Et de pouvoir proposer un peu ce qui se passe sur le territoire français et en l'occurrence dans l'Essonne dans le 91. Donc je vais rappeler à tous nos auditeurs, le 26 septembre les gars, il faut aller à Corbeil-Essonne au Palais des Sports à 19h et à partir de 16h pour le meet and greet si vous voulez aussi, pour assister au show Quality Over Quantity 2020 de la Wrestling Pro Essonne. Vous verrez catcher notre ami El Payo.
Tout à fait.
Vous y verrez notre ami Axel au mic. Ça va envoyer.
C'est sûr.
La salle devrait être pleine. Ah ouais, non, mais je suis sûr qu'on est parti pour un bon show, quoi. Il y a des bons catcheurs, il y a des gars confirmés. Il devrait y avoir une bonne ambiance, donc j'ai pas d'inquiétude là-dessus. N'hésitez pas à aller sur le Discord de Catch-Up. Dessus, on vous y mettra toutes les infos. On fera circuler, voilà, à partager ce podcast pour informer tout le peuple de Catch-Up que la WPE arrive dans les bacs le 26 septembre. Mon bon Axel, je te remercie mille fois de ta présence. C'était sympa. On s'est déjà rencontrés IRL. Voilà, maintenant, on s'était dit on va se faire ce podcast. Et bah, c'est fait. Donc, c'est cool de t'avoir eu. Merci à toi.
Bah, merci à toi aussi de nous avoir accueillis. C'était vraiment, vraiment très sympa. Première web radio que je fais. Super bonne expérience. Bah, merci beaucoup à toi.
Et puis, bah, mon bon El Payo, écoute, tu es notre premier vrai gros catcheur, même si Sturi était un catcheur, donc respect à Sturi.
Oui.
Mais toi, tu es un catcheur d'actif, comme on dit. Et voilà, quoi, en plein dans le truc, quoi, un beau gabarit de 115 kilos qui fait partie de l'équipe de la Wrestling Pro Essonne. Voilà, qui catchera le soir de Quality Over Quantity. J'espère qu'on vous l'aura assez répété, le nom de ce show. D'accord, la qualité au-delà de la quantité, les amis. Voilà comment ça se passe chez nous. Et donc, bah, merci beaucoup à toi, El Payo, d'avoir pris un peu de ton temps pour venir sur le podcast de Catch Up.
Merci à toi, c'est bien cool.
J'étais ravi de vous avoir tous les deux. Voilà, ainsi va s'achever ce You Talk Too Much. Alors évidemment, je ne partirai pas sans vous faire la promo, hein, les amis, parce que sinon j'ai El Patron qui va me passer un gros armbar. Donc, vous nous retrouvez, bah, comme la WPE, sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous nous retrouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur les bonnes plateformes de podcast et partout parce que nous sommes partout. Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Bien évidemment, on est sur YouTube. Alors évidemment, sur YouTube, on est du podcast. Il n'y a pas d'image, mais on a des belles vignettes. On a des bons petits résumés. Vous actionnez la cloche, vous vous abonnez. Voilà, j'ai fait le tour de toute la promo catch-up. Je vais pouvoir faire des bisous à nos amis de la Wrestling Pro-Esson. Eh ben, mon El Payo, mon Axel, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt parce que de toute façon, Catch-Up s'engage ici à You Talk Too Much de vous faire une belle review déjà de Quality Over Quantity parce que votre tonton Chris sera présent au show. Il faudra le dire. Il faut le crier haut et fort.
Tout à fait.
Et ben, des gros bisous à toi aussi.
Voilà, pareil.
On se quitte là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait plein de bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Axel.
Salut.
Salut El Payo.
Salut à tous.
Salut peuple de catch. Voilà, ça se passe comme ça, You Talk Too Much. Content les gars ?